RCF.
Bonjour à tous et bienvenue dans Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel. Une émission enregistrée, je dois l'avouer, mercredi après-midi. J'espère que nous ne serons pas trop en décalage avec vous quand nous rejoindrons vos oreilles. Alors comme toutes les semaines dans Effervescence, il y en aura pour tous les goûts. Du rock et de l'opéra, de la politique et de la mystique, du cinéma et des festivals. Mais avant de vous présenter le programme, hommage à une artiste éprise de liberté et d'indépendance qui a tracé sa route loin des institutions culturelles et a su rencontrer l'engouement du public grâce à ses pochoirs féminins et féministes qu'elle déposait sur les murs de la capitale. Mystique, artiste populaire au dessin efficace s'en est allée au paradis des poètes de rue. Celle qui était une pionnière du street art a su imposer son humour, sa poésie et son trait engagé dans un monde plutôt masculin. Avec elle, nous avions appris à regarder autrement les murs de Paris, à lever les yeux à la recherche de ses clins d'œil. Ses dessins lui survivront. Puissions-nous prendre soin de cet art fragile et éphémère, mais à jamais reflet du combat féministe qui, avec Mystique, savait prendre des formes légères et souriantes. Elle qui disait « Je prête à rire, mais je donne à penser ».
Effervescence, une émission présentée par Stéphanie Gallet.
Et ils sont trois avec moi aujourd'hui dans Effervescence. Nathalie Sertoulajus, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie.
Vous êtes rédactrice en chef de la revue Études, la revue des Jésuites. Vous êtes avec nous depuis Bordeaux. Et l'événement culturel à Bordeaux, c'est l'ouverture de l'exposition consacrée à la peintre Rosa Bonheur. Vous y êtes allé pour nous. Et puis au cinéma, vous avez vu Les Visiteurs du Soir avec Charlotte Gainsbourg qui crève l'écran et vous nous raconterez. On reste dans le sud-ouest. Éric Dupri, bonjour.
Eh bien, bonjour de la Ville Rose.
Voilà, vous êtes à Toulouse où vous couvrez la culture pour Radio Présence. L'été approche et avec lui le temps des festivals. Dans quelques jours, ce sera le festival Les Tons Voisins qui commence à, je dis à Strasbourg sur mon papier, non, qui commence à Albi, on est bien dans le sud-ouest. Un rendez-vous que vous connaissez bien. Et puis, vous avez lu non pas le dernier Houellebecq, mais le dernier livre sur Houellebecq. Il est signé Christian Autier, c'est Houellebecq Politique. Compte rendu avec vous dans quelques minutes. Enfin, François-Xavier Maigre, rédacteur en chef à Pèlerin, est avec moi dans les studios de RCF à Paris. Bonjour François-Xavier.
Bonjour Stéphanie, bonjour à tous.
Alors, vous nous offrirez aujourd'hui une leçon de rock en rendant hommage au batteur. Et puis, vous avez lu un livre, non pas sur Houellebecq, hein, mais sur Etil Soum, une jeune mystique disparue dans les camps de concentration. Je compte sur vous pour faire le lien avec Houellebecq. Voilà, Nathalie, Éric et François-Xavier du Beau Monde pour Effervescence. Et on commence tout de suite par une question. À quoi sert un ministre de la Culture ?
Je suis résolue à défendre notre souveraineté culturelle pour affirmer la place de la création française, de la langue française, de l'innovation française dans l'océan numérique et bientôt dans le métavers, vous l'avez dit. Amplifier le développement de notre cinéma, de nos industries créatives, à la fois en France, en Europe et à l'international. Déterminée également à défendre notre patrimoine, le préserver, le rendre plus accessible, et continuer, chaque fois que possible, à inviter des artistes d'aujourd'hui à le révéler, à le raconter, à le réinventer.
Voilà, c'était vendredi dernier, lors de la passation de pouvoir rue de Valois au ministère de la Culture, les premiers mots de Rima Abdul-Malak, la nouvelle locataire des lieux. Elle a bien sûr salué Roselyne Bachelot sur les départs et s'est enthousiasmée pour ce ministère de la Culture, le ministère de ce qui donne du sens et du goût à la vie, a-t-elle dit. Rima Abdul-Malak, c'est une personne inconnue du grand public, hein, elle travaillait plutôt dans l'ombre. Alors quel sens donnez-vous à cette nomination ? Allez, François-Xavier Maigre en premier.
Moi, je la connais pas très bien, mais le fait qu'elle était sur le pont pendant le Covid, je crois qu'elle s'est beaucoup engagée justement pour le, elle s'est beaucoup engagée pendant le Covid pour les artistes, pour le monde de la culture. Donc c'est quelque chose de plutôt positif. Et j'ai cru lire dans les articles de presse qu'elle était passionnée de théâtre et de poésie, ce qui me la rend plutôt sympathique.
Oui, visiblement, elle a travaillé aussi avec le rire médecin, les clowns à l'hôpital. Nathalie Sertoulajus, un mot sur notre nouvelle ministre, on va redonner son nom, hein, Rima Abdul-Malak.
Oui, bah, le fait qu'elle soit une spécialiste du spectacle vivant, je pense qu'effectivement, c'est une bonne nouvelle pour ces arts qui ont quand même pas mal souffert pendant la pandémie et la période du confinement. Et puis, disons qu'effectivement, c'est elle qui a mis en place le pass culture, dont bénéficient quand même 3 millions de jeunes. Et puis, le fait qu'elle ait dirigé aussi une association de clowns sans frontières, qu'elle ait travaillé dans des ONG comme le CCFD, ça me la rend sympathique parce que je trouve que ça témoigne de son attention à la lutte contre les inégalités, son souci d'une démocratisation aussi de la culture.
Éric Dupriez, votre mot sur notre nouvelle ministre ?
En fait, je crois que sa nomination entérine une situation de fait, puisqu'elle était conseillère culture et communication d'Emmanuel Macron depuis 2019. Autant dire que c'était elle, la vraie ministre de la culture déjà. Après, j'ai pas grand-chose à dire sur elle parce que, comme François-Xavier l'a dit, je la connais pas très bien. Elle a fait une carrière dans l'humanitaire auparavant. Elle a été directrice, je crois, des programmes de l'association Clowns sans frontières. Ça peut prêter à rire d'ailleurs. Elle a fait beaucoup, semble-t-il, pour le milieu culturel. On dit même beaucoup dans le milieu, disent qu'elle a sauvé la culture pendant la pandémie parce qu'elle a beaucoup œuvré pour qu'on libère des fonds pour soutenir la culture. Elle aura beaucoup à faire parce qu'il s'agit maintenant de faire revenir les gens au théâtre, dans les salles de concert. Beaucoup de professionnels se plaignent de ça. Là, d'autres chantiers, je crois, qui sont prévus. Notamment, il y a la fusion TF1-M6, il y a la suppression de la redevance audiovisuelle. Je pense que si Emmanuel Macron l'a mise à cette place, parce qu'il y a d'autres noms qui ont circulé, c'est pas pour rien, il a mis quelqu'un qui est vraiment très proche de lui.
Alors justement, à quoi ça sert un ministre de la culture ? Nathalie Sartoulageux, est-ce que vous avez une idée là-dessus ?
En fait, elle le dit bien dans son discours, finalement. Bon, il y a la sauvegarde du patrimoine culturel national, mais il y a aussi toute la promotion du développement d'une culture, de la création vivante, et puis d'une création vivante et exigeante sur tout le territoire. Mais là, c'est vrai que les ministères, la politique culturelle, sans le soutien de la politique culturelle, la création ne serait pas aussi vivante et exigeante en France. Ça a commencé avec Malraux, la création des maisons de la culture, mais aussi on peut penser à Jacques Lang, c'est une vraie décision politique, la création du prix unique du livre, qui a quand même permis la sauvegarde des librairies et tout un rayonnement de la littérature française, des sciences humaines aussi. Donc il faut une politique culturelle pour éviter en fait d'abandonner la culture aux seules lois du marché et pour réguler l'industrie culturelle, en rendant possible une création exigeante et puis accessible à tous. On peut prendre l'exemple, par exemple, d'une série comme Drôle, sur Netflix.
Une série sur le stand-up.
Ouais, voilà, cette série, elle a bénéficié d'un certain succès public et critique. Netflix, connaissant un petit coup de mou, ils ont décidé d'arrêter le tournage de la saison 2 parce qu'elle rapportait pas assez d'argent. Donc, la politique, je pense que le ministère de la Culture sert à soutenir aussi une création culturelle.
Qui soit indépendante du marché.
Indépendante du marché, voilà.
Ouais, mais ça
Éric Dupriez.
Ça s'appelle l'exception culturelle, ça existe déjà, ça. C'est typiquement français, d'ailleurs. Enfin, l'exception culturelle française. Je crois qu'on est le seul pays au monde, je peux me tromper, où la création culturelle, l'économie culturelle, parce qu'il faut appeler ça comme ça aujourd'hui, l'industrie culturelle est très très largement soutenue par des subventions publiques, par de l'argent public. Donc, à quoi ça sert un ministre de la Culture ? C'est un peu, je pense, à gérer tout ça. Il y a aussi des histoires de nominations dans les scènes nationales, les opéras, les centres dramatiques. Il y a cet aspect aussi de réseau. Et je pense que c'est une femme de réseau qui a sans doute des réseaux puissants dans le milieu culturel. Bon, après, qu'est-ce qu'on peut attendre d'elle ? Je rappelle ce que je disais il y a quelques minutes. Elle va avoir à gérer la suppression de la redevance audiovisuelle. Il y a, je crois, des états généraux pour le droit à l'information qui sont prévus. La fusion TF1-M6. C'est très techno, tout ça. Jack Lang dit que c'est pas une technocrate.
Plus techno que politique.
Oui, non, mais il y a des aspects techno, des aspects technocratiques. Elle connaît bien tous ces rouages, j'en suis intimement persuadé. Elle a l'air d'aimer beaucoup la création contemporaine, Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quelle création contemporaine? Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle dans le petit extrait que vous avez diffusé, lors de sa prise de fonction. Elle parle de la souveraineté. Je crois qu'elle a parlé de la souveraineté culturelle française, quelque chose comme ça. C'est assez paradoxal, pour pas dire paradoxalement comique, parce qu'on sait que notre président actuel a un jour quand même cru bon de sortir qu'il n'y avait pas de culture française. J'aimerais beaucoup qu'on l'interroge sur ce sujet. Qu'est-ce qu'elle appelle la culture française, mademoiselle Rima Abdul-Malak?
Bah, si on la croise en lui posant la question. François-Xavier Maigre.
Moi, j'ai pas trop d'avis sur la question, mais en tout cas, je suis sensible au fait que ce soit Nkwadra qui prenne les rênes de la culture dans un moment où il y a de mutations assez profondes avec de nouvelles expressions culturelles.
L'évocation du métavers, c'est quand même
ouais,
assez.
Ouais, voilà. Il y a un enjeu de transmission aussi qui est très fort et je pense qu'elle a visiblement plein de qualités pour y parvenir. Et ça n'a pas été relevé aussi, mais il me semble qu'elle est franco-libanaise.
Oui. Et elle est née à Beyrouth, ses parents sont venus, elle raconte ça dans son discours.
Et c'est peut-être aussi une très très bonne nouvelle pour la francophonie qui est très chère à mon cœur, parce que je trouve que c'est quelque chose de fascinant, le français qui est parlé dans le monde entier. Et voilà, si elle peut aussi œuvrer à la francophonie, à la promotion de poètes, d'auteurs, de théâtre, des romanciers qui écrivent en langue française, je trouve que ça pourrait être une très belle action.
C'est essentiel. Oui, Éric Dupri.
Juste, je vais ajouter une chose là, concernant la transmission. Ça, c'est effectivement très intéressant et important d'avoir soulevé cet aspect-là. Parce qu'il y a un vieux rêve qui datait de Malraux, et je crois qu'il avait été aussi demandé par Jack Lang. Alors ça a dû exister, si ma mémoire est bonne, pendant peut-être un an, quelque chose comme ça. C'est l'histoire de fusionner le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale. Ça, c'est quelque chose qui avait été à un moment donné envisagé, qui n'avait jamais vraiment existé dans les faits. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Et je pense à ce titre que la nomination de Pap Ndiaye, de quelqu'un comme Pap Ndiaye au ministère d'Éducation nationale, c'est beaucoup plus signifiant que la nomination de Rima Abdul-Malak à la culture.
Oui, c'est vrai qu'on a finalement assez peu parlé de sa nomination, Nathalie.
Oui, mais je pense qu'effectivement, Éric a raison de souligner cette articulation entre l'éducation et la culture qui est vraiment centrale. Et je pense que avec Rima Abdul-Malak et puis Pap Ndiaye, c'est vrai, c'est deux nouveautés en fait marquantes en réponse peut-être à la campagne aussi très identitaire hein, de Zemmour et de l'extrême droite. Et on voit bien dans les réactions caricaturales de l'extrême droite à la nomination notamment de Pap Ndiaye que ces obsessions identitaires sont vives. Donc ces deux personnalités qui vont incarner, qui sont censées aussi incarner, je dirais, l'ouverture et puis la diversité.
Ouais. Rima Abdul-Malak a donc fait ses premiers pas. On l'a vu cette semaine à Fontainebleau pour la réouverture de l'escalier monumental du château de Fontainebleau. J'imagine, je n'en suis pas sûre, mais qu'elle sera samedi pour la remise de la Palme d'Or à Cannes. On regardera ça avec attention. Autre événement cette semaine, c'était la semaine dernière, c'est juste quand on est sorti du studio d'enregistrement d'Effervescence, c'est la disparition du compositeur Vangelis, compositeur franco-grec, un des pionniers de la musique électronique, grand compositeur de bandes originales de films. On écoute peut-être la plus célèbre, un extrait des Chariots de feu. L'extrait des Chariots de feu, une musique signée Vangelis.
Effervescence, la culture nous unit sur RCF.
C'est l'exposition à voir en ce moment à Bordeaux, une grande rétrospective consacrée à la peintre Rosa Bonheur. Ça se passe jusqu'à la mi-septembre. Rosa Bonheur, peintre animalière, longtemps dédaignée par la critique. Et Nathalie, eh bien, elle explose aujourd'hui, hein. Peut-être qu'on va commencer par présenter le personnage. Nathalie, elle est née en 1822, elle meurt 77 ans plus tard, à la toute fin du 19e siècle.
Oui, alors c'est vrai que ça vaut le coup, parce que de rappeler un petit peu ça... son autobiographie, parce que c'est une personnalité très forte, hors norme, hein, affranchie des conventions. Elle est née à Bordeaux, hein, donc c'est pour ça que sa ville natale lui rend hommage, hein, pour le bicentenaire de sa naissance. Elle est née à Bordeaux dans le quartier de Saint-Seurin, où elle a passé les premières années de sa vie dans une famille de peintres. En fait, elle a grandi et elle s'est formée dans l'atelier de son père, qui a été son premier maître, et dans une fratrie de peintres. C'est vraiment une famille d'artistes. Et elle était la plus talentueuse de tous. Et une fois son succès acquis à la capitale, elle s'est installée au cœur de la forêt de Fontainebleau, au château de Bie, où elle cohabitait avec sa compagne, avec toute une ménagerie d'animaux, qui étaient à la fois ses compagnons, puis les modèles de son œuvre. Donc c'était une véritable arche de Noé, où elle s'est créée son espace qu'elle appelait le domaine de la parfaite amitié, où se côtoyaient femmes, flore, faune d'une grande diversité, lions, chevreuils, chevaux, perroquets, chats, chiens. Voilà, donc ça a été, elle a vraiment eu une personnalité très très forte, et c'est vrai que la tentation, c'est de retenir un peu la femme plutôt que l'œuvre, hein, parce que ça a été une icône féministe, lesbienne, si on songe aussi au café Rosa Bonheur au cœur des Buttes Chaumont à Paris, mais qui a peut-être un peu caché l'artiste. Et donc c'est vrai que c'est bien d'organiser une telle rétrospective pour montrer, faire découvrir toute la puissance de son œuvre.
Donc ça se passe au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Qu'est-ce qu'on voit ?
Alors, c'était une grande peintre animalière. Hein. Elle s'est beaucoup engagée en faveur des animaux. Elle a illustré un ouvrage qui dénonçait la maltraitance animale. Hein. Donc, elle était vraiment très, très en avant sur son temps. C'était vraiment une peintre de son époque. Hein. Donc, on très proche de l'école de Barbizon, les Corot, Millet, Courbet. Donc, comme eux, elle a peint des scènes de vie rurale. Mais ce qui est intéressant dans son œuvre, que ce soit les scènes de labourage ou le marché des chevaux, le muletier des Pyrénées, c'est qu'elle met au centre de son œuvre vraiment le travail de l'homme avec l'animal. Et c'est ce côté, enfin c'est cette dimension, enfin les animaux sont vraiment au centre de son œuvre. Ils font pas simplement partie du décor. Et alors cela vraiment est manifeste dans ses portraits d'animaux, hein, que ce soit celui du grand cerf, le roi de la forêt, ou bien le lion. Elle met en scène en fait toute la majesté et la beauté de l'animal qui la fascine. Et c'est vrai que ces tableaux sont saisissants. Notamment la manière dont elle peint le regard en fait des animaux. On sent bien que pour elle les animaux ont une âme, hein, et que c'est ça qu'elle cherche à saisir. C'est cette rencontre en fait surprenante, hein, entre l'homme et l'animal qu'elle peint. Et on le voit ça, la croisée des regards.
Il y a un tableau qui vous a particulièrement touché, Nathalie ?
Ah ben c'est justement le roi de la forêt. Quand elle s'est installée à Fontainebleau, elle s'est mise, parce qu'elle a peigné beaucoup avant les bœufs, enfin des scènes de vie rurale. Et puis quand elle s'est installée dans la forêt de Fontainebleau, elle dit bon, je vais laisser un petit peu les bœufs, les animaux de la forêt sont beaucoup plus intéressants. Et notamment elle peint il y a une peinture du grand cerf, c'est saisissant, c'est ce moment de la rencontre avec l'animal. Elle tout en laissant à l'animal en fait sa propre étrangeté. Et c'est dans ce sens-là, je trouve qu'elle est vraiment elle parle à notre époque. Ça m'étonne pas que notre époque la redécouvre par sa vision avant-gardiste, on peut dire qu'elle avait son souci qu'elle avait des animaux. D'ailleurs, elle s'intéressait aussi beaucoup à l'anatomie, au comportement animalier, hein. C'était pas simplement une grande portraitrice d'animaux, mais une grande peintre, mais c'était aussi elle s'intéressait aussi à toute la connaissance scientifique, hein, autour des animaux.
Alors cette exposition Rosa Bonheur, c'est donc à voir à Bordeaux, c'est jusqu'au 18 septembre prochain, donc vous avez tout l'été. Et puis si vous n'allez pas à Bordeaux, si vous n'êtes pas dans le sud, mais si vous êtes plutôt au nord, dans le nord de la France ou en Ile-de-France, eh bien sachez qu'on peut visiter, il y a un château-musée, qui est le château-musée de Rosa Bonheur, c'est à Thomery en Seine-et-Marne. François-Xavier, ce que l'on vient d'entendre là à l'instant, c'est un extrait d'un morceau des Foo Fighters, un groupe de rock indépendant. Ce que vous voulez nous faire entendre, c'est le son de la batterie. Elle est tenue par Taylor Hawkins, qui vient de disparaître.
Il est mort, ouais, il est mort au mois de mars, en fait. On en a beaucoup parlé à l'époque. C'est un batteur qui avait 50 ans, et dont le talent, dont la joie de vivre, la fraîcheur a été saluée par l'ensemble de la planète rock. Et je voulais saisir un peu cette occasion pour mettre en lumière le rôle des batteurs dans la culture pop et rock, qui est absolument essentiel. Et en fait, on les connaît un peu moins, mais moi, en tant que passionné de musique et de rock en particulier, j'ai toujours une fascination pour ces hommes de l'ombre, sans qui la musique ne serait rien. Et je trouve que quand un batteur meurt, c'est toujours un peu triste. Eux qui sont le garant de la pulsation de la musique.
C'est un peu la charpente,
voilà,
d'un groupe de rock.
Exactement. Ouais. Et Taylor Hawkins, c'est quelqu'un qui était vraiment humble, ultra talentueux, qui a joué avec des gens exceptionnels et qui a fait l'essentiel de sa carrière avec Foo Fighters, qui est le groupe de Dave Grohl, lui-même l'un des plus grands batteurs de l'histoire, et qui chante dans ce groupe. Et il avait pas son pareil pour tenir un morceau. Et voilà, c'est ce que je voulais vous faire entendre.
Alors François-Xavier, vous nous avez proposé un petit jeu. On va découvrir les plus grands batteurs de l'histoire du rock d'après François-Xavier.
En tout cas, c'est mes quatre intros de batterie préférés de tous les temps.
Alors je les connais pas tous, presque. Celui-ci, je pense que tout le monde le connaît. Ah ouais, hein. Come Together, Ringo Starr, les Beatles.
Ouais, je voulais le mettre parce que Ringo Starr, il a toujours été un peu moqué pour son côté sympathique, mais finalement pas très bon musicien. La vérité, c'est que quand il est entré dans les Beatles, il y avait eu d'autres batteurs avant Ringo Starr. Le groupe a décollé et en fait, beaucoup reconnaissent aujourd'hui son talent. Sans lui, il n'y aurait jamais eu le succès des Beatles. Et cette intro de Come Together qui est extrêmement originale avec une utilisation de la palette de la batterie, avec les toms, quelque chose de très singulier en fait.
Les toms ?
Les toms, c'est ces fûts qui permettent en fait d'avoir différents sons percussifs.
Non, le son de rock, hein, vous avez dit.
Il a vraiment apporté une modernité à la batterie et on n'a plus joué pareil après Ringo Starr.
Allez, on continue. Ça, c'est du bon son quand même. Led Zeppelin.
Ouais, alors.
Et à la batterie.
Bah, John Bonham, un immense batteur, peut-être pour moi l'un des plus grands batteurs de tous les temps et de l'histoire. Il a propulsé dans les années 70 la batterie rock dans son ère moderne. C'est vraiment lui qui a inventé les grands fondamentaux de la batterie telle qu'elle est jouée aujourd'hui. Et ce morceau, When the Leaves Break, que je trouve assez incroyable, parce que là, on est dans les années 70, et il y a déjà quelque chose de très, très moderne. Il réinterprète la culture blues en l'amenant vers quelque chose de beaucoup plus urbain, de beaucoup plus métallique. Et en fait, on voit que toute la musique populaire d'aujourd'hui, elle découle de ces fondamentaux-là.
Allez, on avance dans l'histoire du rock. Ça, c'est vraiment le morceau d'anthologie. Vous avez reconnu Sunday Bloody Sunday, U2.
Oui, alors là, exactement, c'est Larry Mullen Jr. Là, donc là, on passe à la décennie des années 80 avec ce très très beau morceau, très fort de morceau de U2, qui est un morceau aussi très politique, un morceau sur la paix, qui nous parle de l'Irlande, qui n'a pas pris une ride, avec cette intro de batterie phénoménale de Larry Mullen aussi, qui a parfois été déprécié, alors que c'est pour moi un immense batteur. Et là, on sent toute son influence, lui qui a joué dans des fanfares. On sent cette influence de mélange de tambours de fanfare et de batterie rock, une intro exceptionnelle.
Alors, à la réalisation de l'émission, il y a un autre rocker, c'est Pierre Samanos, et il trouve, parce que là on va écouter maintenant un morceau des années 90, et Pierre, il trouve qu'il manque un morceau de The Police.
Il a raison, en fait.
Il a raison.
Oui, Stewart Copeland, le batteur de Police, est un des plus grands batteurs, et d'ailleurs c'était l'influence majeure de Taylor Hawkins, le batteur qui est mort au mois de mars, dont je vous ai parlé. Mais en fait, j'ai pas trop. Enfin, il y a moins d'intro de batterie, je trouve, dans The Police. La batterie arrive plus tard en général, et voilà.
C'était plus compliqué à faire. Allez, morceau suivant. Cette fois-ci, on remonte dans les années 70. Bon, alors là, je connais pas.
Alors là, c'est Rod Hatt, c'est un batteur fabuleux. Donc là, c'est un morceau des années 70 qui s'appelle Do You Read Me, du guitariste irlandais Rory Gallagher, à ne pas confondre avec les frères Gallagher d'Oasis.
Voilà,
Stéphanie,
ça.
Je vois que vous avez fait l'erreur. qui, pour moi, est un des plus grands guitaristes de tous les temps. C'était un Irlandais. Et d'ailleurs, il était tellement apprécié en France, où il est venu beaucoup jouer chez nous, qu'il porte, il y a une rue qui porte son nom à Ris-Orangis, il y a la rue Rory Gallagher, tellement ses concerts ont marqué
Ris-Orangis avec le plan, j'imagine.
Exactement,
la salle de
il
concert.
A tellement marqué les spectateurs du plan que la rue porte son nom. Et je vous ai mis cette intro, elle n'est pas très connue, mais je la trouve fabuleuse. On voit le jeu qu'il peut y avoir entre un batteur et un guitariste pour produire une musique éminemment pulsionnelle, vivante. Et je trouve que le rock, c'est ça.
Et ben dans Effervescence, on avait déjà eu une leçon d'orgue. Et bien maintenant, leçon de batterie. Merci beaucoup, François-Xavier.
Effervescence, quand la culture fait briller les yeux.
Et cette semaine, dans Effervescence, nous reparlons de Michel Houellebecq. Au début de l'année, il avait fait l'événement avec la sortie de son livre « Anéantir » et nous avions ici même parlé du phénomène Houellebecq et analysé son livre. Nous y revenons avec vous, Eric, à la lumière d'un essai qui vient de sortir chez Flammarion. Il est signé Christian Autier, ça s'appelle « Houellebecq politique ». Il décortique les idées de cet écrivain hors norme. Eric, est-ce que vous avez un peu mieux saisi qui était Michel Houellebecq ?
Ben, pas forcément, parce qu'il s'agit pas de le saisir. Il faut surtout pas le saisir, d'ailleurs.
Insaisissable.
C'est un peu la conclusion du livre d'Autier. Non, petite précision importante. Donc, l'essai paraît chez Flammarion, l'essai de Christian Autier. Et il faut rappeler qu'il y avait eu un Houellebecq économiste publié par le très regretté Bernard Maris en 2014, déjà chez Flammarion.
Journaliste éco.
Voilà, Maris qui était ami avec Houellebecq et qui avait été le professeur de Christian Autier à Sciences Po Toulouse. Et ils sont devenus amis ensuite. Autier a rencontré Houellebecq plusieurs fois. Ils ont eu des entretiens qui ont été publiés à l'époque dans l'Opinion indépendante ou même, je crois, peut-être même dans le Figaro, entre Autier donc et Houellebecq. Et Autier, cette année d'élection présidentielle, année où Houellebecq sortait aussi chez Flammarion son roman Anéantir, a proposé à Flammarion, comme il y a eu un Houellebecq économie, je vous propose de faire un Houellebecq politique. Ainsi fut dit, ainsi fut fait. Le livre est donc sorti il y a quelques semaines, en mars, mi-mars, un petit peu avant le premier tour d'élection présidentielle. Donc pour documenter son livre, pour l'écrire, pour l'argumenter aussi, Autier a relu tous les livres de Houellebecq, donc les romans, les essais, même les poésies, les recueils de nouvelles, la correspondance avec Bernard-Henri Lévy, je ne sais pas si vous vous rappelez cette correspondance, les articles et tous les entretiens qu'a pu donner Houellebecq, donc dont certains avec Christian Autier. Et Autier, la dernière fois qu'il a vu Houellebecq, c'était justement c'est triste, une très triste circonstance, c'était pour les obsèques de Bernard Maris en janvier 2015 après les attentats de Charlie Hebdo. Et donc tous les chapitres du livre sont consacrés aux diverses étiquettes qu'on a voulu coller à Houellebecq pour essayer de l'identifier politiquement. Et parfois aussi, il faut bien le dire, pour l'assigner à résidence politiquement parlant.
Alors, exemple d'étiquette.
Je vais vous donner les titres.
Voilà.
Alors, je vais vous donner les titres. Le premier, c'est « Extension du domaine de l'antilibéralisme ». Le deuxième, c'est « Contre mai 68, tout contre ». Le troisième, c'est « Nouveau réactionnaire, point d'interrogation ». « Conservateur, point d'interrogation ». « Islamophobe, point d'interrogation ». « Anarchiste de droite ». Point d'interrogation. Le chapitre suivant est titré « Voyage au centre du malaise français ». L'autre, celui qui suit, c'est « Déclin d'Occident ». Après « Défense de la morale ». « chrétien contrarié, parce qu'il a beaucoup été dit que Houellebecq était un catholique contrarié. Et c'est vrai, Autier le rappelle, que Houellebecq, pendant des années, est allé régulièrement à la messe pour voir si par hasard l'Esprit Saint ne lui tomberait pas dessus et s'il n'allait pas se mettre à croire. Il y a un avant-dernier chapitre dont le titre est « En même temps ». Alors, il faut rappeler que Houellebecq a été à la fois adoubé et longtemps très soutenu par les Inrecuptibles, par quelqu'un comme Sylvain Bourmeau, par exemple, voilà, mais qu'il a aussi droit à des articles très élogieux dans Valeurs Actuelles. Il a reçu la Légion d'honneur d'Emmanuel Macron. Ah, vous voyez, le en même temps, on comprend bien ce que ça veut dire. Alors, avec tout ça, qu'est-ce que dit Autier ? Il dit finalement, Houellebecq, oui, il a un peu tout ça. Parfois, il peut être un peu beaucoup tout ça. Mais en fait, il rentre dans aucune case. On peut y aller avec le chausse-pied, il va rentrer dans aucune case ou il va en ressortir aussitôt. Et le dernier chapitre, qui sert de conclusion donc à cet essai, est titré « Singulièrement libre ». On ne peut pas lui coller d'étiquette. En tout cas, c'est ce que pense Autier. Et Autier, il reprend les mots de Dominique Nogues, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet écrivain, très brillant d'ailleurs, qui avait lui aussi publié un essai consacré à Houellebecq, paru en 2003, dont le titre était « Houellebecq, en fait ». Et Autier, il reprend ces quelques phrases de Dominique Nogues, qui fait un constat qui, pour Autier, est toujours vrai. Houellebecq n'a aucun complexe, aucun souci sur le fait de passer pour de droite ou de gauche, pour progressiste ou réactionnaire. Il dit ce qu'il pense, voilà tout. Ce sont ses positions, peu importe où et comment elles tombent, à tel ou tel moment dans le paysage idéologique ou médiatique. Les prendre pour de l'inconscience ou de la provocation, l'effet de l'ivresse ou du jeu, c'est le croire plus bête ou plus soucieux du jugement d'autrui qu'il n'est. En réalité, qu'on l'explique, selon qu'on l'aime ou non, par un incroyable narcissisme ou une confiance en soi durement conquise sur la dépression, c'est un homme qui est arrivé à un degré extraordinaire de liberté à l'égard de l'opinion d'autrui, dans ses déclarations orales comme dans ses écrits. C'est ce qui fait sa force, c'est ce qui le rend incontrôlable, c'est ce qu'on ne lui pardonne pas.
Voilà. Alors, Houellebecq politique, c'est signé Christian Autier et c'est publié chez Flammarion. Je vous propose maintenant de retrouver les clés du Louvre, la chronique qui nous montre un autre visage du plus grand musée du monde. Une rencontre où il sera question de l'accueil des personnes autistes au Louvre.
RCF, les clés du Louvre. 4 saisons pour se sentir bien au Louvre.
On se trouve Cour Puget, qui est dans un espace privilégié du musée, et nous sommes devant 4 sculptures qui illustrent les 4 saisons. Donc on se retrouve face à des allégories à la fois du temps, mais aussi du temps qui passe. Donc 4 âges de la vie correspondant à ces 4 saisons qui marquent une année. Je suis Michel Lomonaco, je suis chargé de programmation handicap et référent accessibilité au service éducation, démocratisation, accessibilité du Musée du Louvre. Alors c'est un lieu un peu privilégié, la Cour Puget, parce que le Louvre a fait un gros travail il y a quelques années dans l'idée d'universalité des publics et de pouvoir accueillir tout type de public. Le musée a fait un recensement des salles qui permettaient un vrai confort de visite. Salles claires, où on peut s'asseoir, pas trop bruyantes. Et pourquoi avoir fait ce travail ? C'est que on se doit d'accueillir tous les publics et on a des publics sensibles qui peuvent venir au Louvre. Et entre autres, le Louvre a un gros programme autour des personnes atteintes de troubles du spectre autistique pour lesquelles on sait que venir au Louvre n'est pas forcément l'exercice le plus simple parce que lieu qui peut paraître bruyant, difficilement accessible, des fois trop clair ou trop sombre et en tous les cas, pas forcément toujours facile à aborder pour des personnes très sensibles à ces éléments extérieurs. Il a donc fallu réfléchir à comment pouvoir accueillir tous les publics, quelles que soient leurs conditions, au Louvre, et donc trouver les lieux les plus adaptés pour que vraiment ce musée, qui est un musée universel dans ses collections, puisse l'être aussi dans ses publics. On a parlé de l'hiver, une des jeunes filles du groupe, qui avait une douzaine d'années, trouvé que le personnage avait l'air un peu replié sur lui-même et surtout qu'il avait l'air très triste. Et un jeune homme du même âge qui était à côté d'elle lui a dit « Mais tu sais, comme le temps tourne, en fait, il va se mettre à sourire parce que juste après l'hiver, il y a le printemps, donc il va redevenir jeune, ouvert et souriant comme la sculpture qu'on a vue. » Et je trouve que c'est une belle image et une belle manière d'aborder ce temps qui passe et ces cycles de la vie avec un regard finalement très optimiste et très ouvert.
C'était Les Clés du Louvre, en partenariat avec le Louvre, un musée accessible à tous.
Et comme chaque mois, RCF vous fait gagner des places pour entrer au musée du Louvre. Alors pour gagner, rien de plus simple, un message gentil envoyé par mail à l'adresse jeu@rcf.fr.
Effervescence, Stéphanie Gallet.
Il y a quelques semaines, nous nous étions enthousiasmés dans cette émission Effervescence pour la performance de Charlotte Gainsbourg dans la série En Thérapie, qui est toujours disponible sur Arte. Elle y incarne la superviseuse du Psy Vedette. Avec vous, Nathalie, on la retrouve en mère de famille, avançant vaillamment dans la vie alors que son conjoint vient de la quitter et qu'elle se retrouve seule avec ses deux ados. Je vous propose qu'on écoute la bande-annonce et on en parle juste après.
Mes passagers de la nuit, mes tout chers, nous sommes le 10 mai. C'est Vanda Dorval qui vous accompagne cette nuit encore jusqu'à 4h du matin.
Et donc vous êtes une inconditionnelle de l'émission?
Oui.
Et pourquoi reprendre le travail maintenant alors?
Je me suis séparée de mon mari. Enfin, il est parti.
Tu comprends.
Mais comment tu vas faire? T'as jamais travaillé?
Merci.
Je suis désolée, c'est pas ce que je voulais dire.
Tu appuies sur le 3.
Ce soir, nous avons une nouvelle visiteuse. Quel est votre prénom?
Talula.
Vous avez quel âge?
18 ans.
Et vous vivez où depuis que vous êtes à Paris?
Des chambres d'hôtel ou des squats.
Tu peux pas rester là comme ça. Tu vas venir à la maison.
Non, mais c'est qui cette fille?
Tu comptes adopter tous les chats errants du quartier?
Elle me touche, moi, cette gamine.
Et si tu n'existais pas?
Tu ressembles à un petit oiseau, t'as jamais dit?
Je vois pas du tout comment ma mère peut connaître ce genre de nana.
En tout cas, j'ai bien vu qu'elle te plaisait, toi.
N'importe quoi.
Dans un monde sans toi, sans... J'ai pas une vie pour toi, Nadia. Au bonheur d'être avec vous ce soir, vous avoir avec moi.
Souvent, je repense à ces moments qu'on a passés ensemble. C'est comme des cadeaux.
Il y aura ce que nous avons été pour les autres. Simplement, nous étions là. Il y avait quelque chose de chaud, d'éternel. Et nous n'étions jamais les mêmes. Ces inconnus magnifiques. Des fragments de nous, ces passagers de la nuit.
Si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existe.
Les passagers de la nuit, c'est une histoire qui vous a touchée, Nathalie?
Ah oui, c'est un film d'une humanité vraiment vibrante qui raconte l'éducation sentimentale et professionnelle d'une femme d'âge mûr, interprétée par Charlotte Gainsbourg, qui est vraiment extraordinaire. Ça se passe dans les années 80. Alors c'est une femme donc blessée, puisque comme la bande-annonce l'a indiqué, elle vient d'être quittée par son mari. Elle n'a connu qu'un seul homme dans sa vie. Elle n'a jamais travaillé, donc elle se retrouve seule avec ses deux grands-enfants, un adolescent et puis une fille aînée qui est sur le point de quitter la maison. Et elle va apprendre en fait à se faire confiance, à la fois dans sa vie affective et dans sa vie professionnelle. Donc on suit sa trajectoire depuis le 10 mai 1981 jusqu'en 1986. Et c'est sur cette courte période où elle va tenter de se réinventer que le film porte. Alors je me suis posé la question en fait, pourquoi le cinéaste Michael Hirst avait choisi le 10 mai 1981 pour débuter le film? Parce que je pense que c'est pas anodin en fait. Alors ça permet d'abord, c'est vrai, de situer le film dans une époque. Je pense dans une époque où les questions sociales étaient probablement moins tendues qu'aujourd'hui, donc avec beaucoup plus de possibilités pour trouver du travail facilement, puisqu'elle va se faire embaucher dans une émission de radio. Alors je ne sais pas aujourd'hui, Stéphanie, s'il suffirait qu'une auditrice vous écrive une lettre bouleversante pour vous donner envie de l'engager à votre émission. Et là, c'est ce qui va se passer.
Hein. Bah pourquoi pas, hein, je sais.
Bon. Et en tout cas, là, ça suffit. Hein, C'est
magique. Mais les années 80, c'était magique, la radio.
Ouais, c'était magique. Ouais, ouais. C'est vrai, c'était magique. Et mais je pense aussi que les relations sociales étaient moins tendues parce que c'est un film qui est très généreux et qui raconte ça en fait. Hein, comment on peut se réinventer grâce aux relations en fait avec les autres. Hein, et c'est ça qui m'a beaucoup touchée. Je pense qu'aussi le 10 mai 1981, bon bah c'est l'élection de François Mitterrand et le film commence par une scène de liesse dans les rues. Qui contraste en fait avec le personnage d'Elisabeth joué par Charlotte Gainsbourg, donc qui est effondrée parce qu'elle est seule dans sa chambre, elle vient de se faire quitter et elle est en train de pleurer. Et malgré tout, ces scènes de liesse dans la rue, ça donne finalement un ton plein d'espoir à tout le film sur cette possibilité justement de se réinventer individuellement, mais aussi probablement, comme certains l'ont cru en tout cas, collectivement. Et je trouve que pour Charles Gainsbourg, c'est vraiment un de ses plus beaux rôles. Alors, je l'ai aussi bien aimé dans la saison 2 dans Thérapie. Je l'avais aussi beaucoup aimé, quand elle était filmée par Doyon dans L'Effronté. Mais là, c'est son beau rôle de femme mature, quoi. Elle se montre à la fois vulnérable, elle pleure beaucoup dans le film, parce qu'elle est débordée par ce qui lui arrive, mais elle est aussi déterminée sur l'essentiel, capable de déployer une grande force quand il s'agit de prendre des décisions pour ses enfants, pour faire un choix amoureux, pour travailler aussi dans cette émission de radio sur France Inter qui se déroule la nuit, donc c'est une émission nocturne, hein, dans les marges par rapport aux émissions phares du jour, et qui donne voix aux marginaux, hein, à tous ces visiteurs de la nuit qui sont un peu perdus. En fait, c'est un film généreux. Voilà, c'est un film généreux dans lequel on se sent bien, parce qu'il s'y déploie des relations qui sont dominées par la tendresse. Et même quand ça se passe pas très bien, même quand il y a des situations d'échec, la dignité des personnes est sauvée, et c'est ce qui rend ce film extrêmement attachant.
Les Passagers de la Nuit, un film signé Michael Hers avec, vous l'avez compris, Charlotte Gainsbourg. On quitte les salles obscures pour retrouver des auditoriums, des salles de concert. Eric, voici venu le temps des festivals. Alors Cannes, bien sûr, on en reparlera la semaine prochaine. Mais aussi festival de musique en tout genre. Et avec vous, direction Albi pour le festival Ton Voisin.
Ton Voisin.
Au pluriel,
oui, alors,
ton. Hein.
Oui, Ton Voisin, alors ça, c'est ceux qui font de la musique verront à quoi ça renvoie. En fait, c'est le titre des Rencontres internationales de musique de chambre d'Albi, dont c'est la 16e édition. C'est un festival qui a été fondé par un albigeois, le pianiste Denis Pascal, qui est professeur à la classe de piano du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Et le festival se déroule dans les hauts lieux du centre historique albigeois, dont la cathédrale Sainte-Cécile et le quartier qui l'entoure. Vous savez que, pour ceux qui connaissent la région en tout cas, savent que ce quartier et la cathédrale ont été ajoutés à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2010. Donc c'est vraiment un quartier, et la ville d'ailleurs, sont magnifiques. C'est magnifique, cette ville d'Albi. Les concerts vont avoir lieu cette année au Théâtre des Lys, qui est le théâtre municipal, un très joli théâtre à l'italienne. Et il y en aura aussi dans la cour du palais de la Berbie, qui est l'ancien palais épiscopal, qui abrite aujourd'hui le musée Toulouse-Lautrec, que je conseille aussi vivement. Si vous venez à Albi au festival, il faut aller aussi visiter la collection du musée Toulouse-Lautrec. Il y a beaucoup évidemment de tableaux de Lautrec lui-même, mais il y en a d'autres qui valent aussi le détour. Et ce festival de Ton Voisin, chaque année, il y a un thème qui tourne souvent autour d'un compositeur, pas toujours. Il y a une année, je me rappelle, c'était les musiques de films. Cette année, c'est Jean-Sébastien Bach. Alors pourquoi Bach? Ne cherchez pas d'anniversaire à célébrer ou commémorer. Il n'y en a pas, c'est pas le cas.
C'est juste qu'il avait envie de faire du Bach.
Alors, on pourra faire un festival sur Bach tous les ans, bien entendu. Ce qu'il y a, c'est que Bach, on croit toujours bien connaître sa musique et son œuvre, mais en fait, c'est très souvent loin d'être le cas. On connaît les passions, on connaît les cantates, mais sa musique de chambre n'est pas aussi connue qu'on pourrait le croire. Denis Pascal a aussi évoqué le pouvoir consolatoire de la musique en général, bien sûr, mais de celle de Bach en particulier. Et il dit dans l'édito du programme du festival, en ces temps bouleversés, la paix et la spiritualité s'ornent pour nous d'un seul nom, Johann Sebastian Bach, dépassant le problème de toute croyance, démonstration parfaite de l'alliance du cœur et de l'esprit dans l'écriture la plus aboutie de la musique occidentale, comme c'est bien dit. Je rappellerai aussi qu'a dit Suran à propos de Bach, s'il y en a un qui doit tout à Bach, c'est bien Dieu. Cette phrase m'a toujours beaucoup plu. Alors, au programme, va y avoir des œuvres très connues de Bach, comme les variations Goldberg, un des concertos brandebourgeois. Il y aura des extraits de la Passion selon Saint-Mathieu, des cantates, des sonates, des suites. Il y a un concert autour du personnage d'Anna Magdalena Bach, qui fut la seconde femme de Jean-Sébastien, qui a beaucoup compté dans sa vie. Et puis, il y aura des concerts avec des œuvres de contemporains de Jean-Sébastien Bach, comme Telemann ou Vivaldi, et puis de ceux qui lui ont succédé, parce qu'il a influencé après toute la création musicale européenne jusqu'à nos jours. Bon, qu'il y aura du Brahms, il y aura du Ravel, il y aura du Mendelssohn, à qui l'on doit la redécouverte de Bach et de la Saint-Mathieu près d'un siècle après leur composition. Et pour la journée de clôture au Grand Théâtre, scène nationale d'Albi, il va y avoir plusieurs concerts auxquels va participer Renaud Capuçon. Il faut bien qu'il y ait une tête d'affiche dans ce festival. Il y a un concert un peu singulier, le 9 juin au Théâtre des Lys, c'est ça que je le conseille. Il a été intitulé Bach's Groove et il est donné par le trio du pianiste de jazz Paul Lai, qui est de la région, il est de Tarbes, hein, comme David Frey d'ailleurs. Il est passé par le conservatoire à rayonnement régional de Toulouse. Et puis Bach et le jazz, bon, c'est pas tout à fait nouveau, parce qu'on connaît ce qu'a pu faire Jacques Lussier avec les musiques de Bach en les transposant,
Back
si on peut dire,
en
jazz, voilà. Et puis oui, effectivement, Back to Africa, ça c'est autre chose, ça c'est pour le festival Passe ton bac, ça c'est mon impatience, vous anticipez, c'est pas la même chose. Bon, tout ça pour dire, c'est vraiment un très très joli festival avec d'excellents musiciens qui tous ont des carrières nationales ou internationales, que ce soit des jeunes ou des plus chevronnés, dans une ville et des lieux qui sont somptueux, et donc je conseille vraiment.
Et on va écouter un extrait du Paul Lai Trio. Qui sera en concert donc pour ce festival Ton Voisin à Albi. Ça commence le 1er juin, c'est ça Eric?
Non, le 7, c'est du 7 au 11 juin.
7 au 11 juin. Voilà. Une observation de notre ami François-Xavier.
Ah ben moi j'adore, on a l'impression d'écouter les enfants de Jacques Lussier. Et une fois encore, on voit que même dans le jazz, on doit énormément au batteur.
Et voilà, c'est dit.
Il a tout à fait raison de dire ça, François-Xavier.
Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel.
Alors, François-Xavier, c'est à vous. On sait, vous avez deux tropismes dans cette émission. Le rock et la poésie. On a déjà parlé du rock, là. Tout à fait différent. Vous êtes venu avec un livre, non pas deux, mais sur, là encore. Et cette fois-ci, sur Etil Soum. Etil Soum, c'est une jeune femme juive qui est morte en déportation et qui est maintenant considérée comme une mystique.
Ouais, en fait, elle a eu un destin, une progression spirituelle. Alors moi, je ne suis pas un grand spécialiste, j'avoue que je l'ai vraiment découverte grâce à ce bouquin. C'est un livre qui a été écrit par Olivier Risser, qui est un professeur de collège en Bretagne, si je ne m'abuse, et qui raconte comment la pensée d'Etil Soum est entrée dans sa vie, et comment en fait ça l'a transformé, s'il a pu vivre un vrai chemin de réflexion et d'intériorité grâce à la lecture d'Etil Soum. Il parle d'elle d'ailleurs comme d'une grande sœur, une grande sœur en humanité. Je trouve ça assez fort. Et pour qui a déjà vécu cette rencontre avec un auteur, moi par exemple, c'est le poète René Guicadou, que j'ai découvert et qui est mort des années avant ma naissance. Et pourtant, j'ai eu l'impression mystérieusement de rencontrer quelqu'un qui était intime, dont les mots me parlaient d'une façon très, très brûlante et très forte. Et ben lui, c'est un peu pareil. Avec Etil Soum, il raconte de manière, je trouve, très, très, très belle, très simple, la façon dont les paroles de vie d'Etil Soum, des paroles de vie qui ont été écrites dans les pires heures de la Seconde Guerre mondiale, ces paroles aujourd'hui viennent le cueillir, lui, dans son existence d'homme du 21e siècle et l'inspirer. Et j'ai trouvé ça extrêmement fort, la façon dont il donnait à comprendre la pensée d'Etil Soum, et notamment son rapport au mal, son rapport à l'engagement. Il y a aussi la présence de Simone Veil,
la philosophe
dans ses pages. Il tisse quelque chose entre Etil Soum et Simone Veil d'une façon très contemporaine. Et d'ailleurs, le livre commence lors des attentats de Nice, et en fait il raconte comment la pensée d'Etil Soum est venue, lui, l'aider à donner sens à ce qu'il vivait aujourd'hui. On vit une époque qui n'est pas toujours simple, qui nous met aussi face à nos contradictions, face au mal, face à l'insondable du cœur humain. Et c'est très beau parce qu'il y a une remise en perspective des grandes lettres d'Etil, puisque c'est sa correspondance et son journal. Et moi, j'ai trouvé que c'était une très belle introduction, ultra accessible, et un livre vraiment à mettre entre toutes les mains.
Alors, j'ai un peu regardé, je crois que c'est son deuxième livre sur Etil Soum. Le premier était à destination de ses élèves, plutôt. C'était un livre grand public, une biographie
grand
public.
Ouais, je l'ai pas lu. Je crois que celui-ci est plus fouillé. Et ce qui est très bien, c'est que c'est un livre en plus qui est très personnel, quoi. Et on peut facilement s'identifier à ce professeur qui fait son cheminement à son rythme. C'est pas un livre de spécialiste, c'est vraiment un livre de lecteur.
Le livre, il s'appelle Etil Soum, un chant de vie par-delà les barbelés, et c'est signé donc Olivier Risseur.
Risseur, ouais.
Et c'est la maison d'édition, je connaissais pas, Enfance de l'arbre.
L'enfance des arbres, en fait, c'est une petite maison par la taille, mais grande par la qualité,
et le cœur,
qui a été fondée par un poète que j'apprécie beaucoup, Jean Lavoué, qui fait un travail d'édition assez remarquable, et ils en sont pas à leur coup d'essai. Il y a de très très beaux livres qui sortent. Ils avaient notamment sorti un livre sur René Guicadou, qui est pour moi le plus grand poète du XXe siècle.
On l'a compris. Sans transition, faut-il boycotter les artistes russes? Faut-il cesser d'écouter de la musique russe? Nous en avions déjà parlé avec vous trois dans cette émission. La grande soprano Anna Nebratko est programmée, je sais pas comment dire, ce mercredi. Donc nous sommes enregistrons l'émission ce mercredi. On est programmée ce soir à la Philharmonie de Paris. C'est un récital qui est comme un retour sur scène après quelques semaines de flottement, où elle était, comme l'écrit joliment le journal Le Monde, partagée entre les feux de la scène et ceux de la guerre. Sa mise à l'index par la Douma, l'Assemblée russe, qui l'a déclarée traite à la patrie, clarifie les choses. On l'écoute dans un extrait d'Adriana Lecouvreur qu'on devrait entendre ce soir à la Philharmonie. Voilà, la soprano Anna Nebratko, cantatrice russe, bienvenue. C'est très beau.
Pour, Stéphanie, oui. Netrebko.
Netrebko.
On dit Netrebko, c'est pas Nebratko, c'est Netrebko.
Bon, voilà, Netrebko, vous avez raison, merci de me corriger. Anna Netrebko, notez bien ce nom, cantatrice russe, qui devrait tourner un peu.
C'est une des grandes voix de notre époque, incontestablement, il n'y a aucun doute là-dessus.
Voilà, c'est la fin de cette émission. On ne se sépare pas. On a raté ça la semaine dernière, donc là, on va y arriver. On ne se sépare pas sans vos impatiences. Je vais vous demander d'être dans une Formule 1 pour vos impatiences. Nathalie Sartou-Lajus, votre impatience avant de se séparer?
Vous parliez de la saison des festivals. Donc, mon impatience, c'est le festival Philosophia qui se déroule à Saint-Émilion-Libourne-Pomerol du 27 au 29 mai. On y rencontrera des philosophes, des scientifiques, des œnologues, des vignerons qui nous parleront de la Terre.
Le tout accompagné de quelques bons crus. Éric, très rapidement, votre impatience culturelle.
Eh bien, on parlait de Bac tout à l'heure pour Paston, pour le festival Ton Voisin d'Albi. Ben, je vais vous parler du festival Paston Bac d'abord. Alors ça, c'est récurrent à Toulouse tous les ans. C'est la 14e édition du 10 au 12 juin, un peu partout dans la ville rose, à la gloire de Jean-Sébastien Bach. Il y aura un concert de clôture, vous en avez parlé tout à l'heure, le 12 juin à la Halle au Grain, intitulé Back to Africa. Alors, je sais pas trop de quoi il s'agit. Peut-être pas quand même de nous faire croire que les origines de la musique de Bac se trouvent en Afrique. Mais enfin, ce titre devrait plaire à notre nouveau ministre de l'Éducation nationale.
François-Xavier, votre impatience ?
Moi, c'est lundi soir, Nada Surf, mon groupe préféré que vous connaissez bien maintenant sur RCF, au Bataclan à Paris, pour deux raisons, parce que c'est un concert qui a été repoussé deux fois, donc on est très nombreux à l'attendre avec impatience. Et en plein procès des attentats de Paris, retourner au Bataclan, soutenir le spectacle vivant et faire revivre cette salle à la mémoire des disparus, c'est quelque chose qui est très important pour moi.
Voilà, ben c'est la fin de cette émission Effervescence. Merci de l'avoir suivi, merci de l'avoir rendu possible. Vous, tous les chroniqueurs, Nathalie Sartoulajus à Bordeaux pour la revue Études, Éric Dupri à Toulouse pour Radio Présence et François-Xavier Maigre pour l'hebdomadaire Pèlerin. Allez, une citation sur Bach justement. Voilà ce que j'ai à dire de l'œuvre de Bach. Écoutez-la, jouez-la, aimez-la, admirez-la et taisez-vous. C'est signé Albert Einstein. Allez, merci aussi à Pierre Samanos qui réalise l'émission. On se retrouve la semaine prochaine. Très très bon week-end à tous.